À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonjour Alain, bonjour Chantal, bonjour Laurent.
Bonjour Chantal, bonjour Jean, bonjour Laurent.
Oui, bonjour Jean et Alain et bonjour Laurent.
Voilà. Voilà, nous voilà partis pour l'émission de février.
2011.
Mais je ne suis pas sûr qu'on ait souhaité la bonne année à nos auditeurs.
Non, année importante pour Couleur FM d'ailleurs. Oui. 30 ans d'existence.
Oui. Et nous, plus de 15 ans.
Et nous, plus de 15 ans, Couleur FM 97.1.
Voilà.
Alors, bonne année à tous les auditeurs.
Voilà.
Meilleur vœu.
De quoi
Qu'est-ce que tu souhaites, Chantal?
Moi, aux auditeurs.
À tous.
À tous. Une année avec du bonheur, des joies. C'est déjà pas mal.
Oui, oui. Il va y avoir du boulot, là.
Oui. Une année sans chômage. Année sans sottise du gouvernement.
Oui, c'est plus difficile à obtenir, je crois.
Qui ne proposent plus d'envoyer leur CRS à un peuple qui vient de gagner.
Eh oui.
Comme une certaine madame Lio-Marie.
Mam, pour les immédiats.
Oui, mais moi, je ne suis pas un familier. Je ne suis pas un familier de madame Lio-Marie, donc je ne dis pas mam. Voilà. Mais on doit parler de l'Italie et pas de madame Lio-Marie. Alors, l'Italie. Depuis notre dernière émission, il y a beaucoup de fêtes importantes, en fait. Mais il y en a un très, très important. C'est le référendum qu'il y a eu à la Fiat. On n'en a pas parlé, mais c'est important parce que c'est la rupture, la première rupture dans une grande entreprise. La Fiat, la plus grande entreprise italienne, probablement. C'est la première rupture avec la tradition qui existe, la tradition syndicale qui existe depuis 1969. C'est-à-dire depuis 40 ans. Le patron de la Fiat, Sergio Marchionne, a demandé à ses employés, ouvriers, employés, de voter oui à un référendum où il dit ou bien vous votez oui et je garde Mirafiori, qui occupe quand même 5500 ouvriers à Turin, ou bien vous votez non et je ferme.
Ah oui.
Alors, évidemment, tous les syndicats ont signé et appelé à voter oui, sauf la FIOM, la Fédération italienne des ouvriers métallurgistes, qui a refusé de signer et qui a appelé à voter non. Pourquoi ? Parce que Marchionne rompt avec le principe qui avait été établi, de contrats nationaux par branche. Donc, il y avait des contrats chaque année, on renouvelait les contrats par branche d'industrie, et ils étaient valables pour toutes les entreprises de la branche. Or là, Marchionne leur dit, non, dorénavant, on ne signera plus le contrat national, mais on signera un contrat d'entreprise. Et du coup, ils se retirent même du MEDEF local, de la Confindustria, au grand dam de Madame Marcegaglia, la présidente de la Confindustria. Il se retire de l'association patronale nationale pour fonctionner sur sa propre base. Et évidemment, la FIOM a dit, mais les conditions qui sont posées sont inacceptables. Et a appelé à voter non. Mais le référendum a été voté par environ 54%. Et ça se comprend. Et le problème, c'est que les syndicats qui n'auront pas signé ce texte, cette proposition, ne seront plus
reconnus
dans l'entreprise. Or, la FIOM est le syndicat majoritaire. C'est l'équivalent, c'est la fédération qui est rattachée à la CGIL, à la Confédération Générale Italienne des Travailleurs. Et donc, c'est la confédération syndicale de gauche, quoi, qui est dans la tradition plus communiste que... Enfin, maintenant, c'est autre chose. Elle est indépendante des partis politiques, mais c'est la fédération syndicale la plus fidèle à la tradition syndicale italienne. Et puis, derrière, le problème est que Marchionne fait ça parce qu'il veut... intégrer, il veut prendre la majorité dans Chrysler, l'entreprise Chrysler, qui dans lequel on lui a promis de lui donner 51%, donc la majorité. Et il dit c'est une nécessité pour Fiat parce que qui ne produira pas 6 millions de véhicules par an sera mis dans la catastrophe. Sur le marché automobile, quoi.
Mais c'est l'éternel débat. Alors, il se trouve que moi, je me trouvais en Italie au moment du vote, qui a beaucoup intéressé les Italiens.
Ah oui.
La télévision retransmettait on voyait des gens qui votaient en masse, là, parce que les ouvriers ont voté en masse. Enfin, le personnel a voté en masse. Non, mais c'est l'éternel problème de la société actuelle où les chiffres que tu viens de donner, etc., on pense que produire, c'est ce qui fera avancer l'économie. Alors, on a un cadre, on ne veut pas sortir de ce cadre, et ce cadre entraîne ce phénomène, ce qui fait que plus 65%, si je ne me trompe pas, de voitures, puisqu'on parlait de voitures, d'automobiles européennes, sont produites hors d'Europe maintenant.
Bien sûr.
C'est la course à la production ou la course à la croissance tout court. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été démontré que ça enrichisse l'être humain jusqu'à maintenant. J'entendais récemment un sociologue qui prenait l'exemple du Japon. Le Japon, qui a une croissance tout à fait correcte, et depuis des années, n'a pas du tout baissé son chômage. Il n'y arrive pas. Donc, ça veut dire que la croissance pour la croissance, contrairement à ce qu'on veut bien dire, ne crée pas d'emploi. Enfin, c'est un autre débat, mais c'est... Et y a un dialogue de sourds. Et le président de Fiat est dans la logique actuelle, mais c'est un dialogue de sourds. Parce que rien ne démontre que... Alors après, chacun dit « Ah oui, mais par rapport à la concurrence, on s'abrite toujours derrière la concurrence de quelqu'un d'autre. »
Mais c'est vrai que les travailleurs ont eu peur d'une fermeture d'entreprise.
Évidemment.
Il y avait un chantage.
Il y a un chantage à l'emploi.
Si vous ne votez pas, je ferme.
Chantage à la perte de l'emploi ou à l'emploi
bien
tout
sûr,
court.
Bien sûr. Et c'est quand même un fait grave, cette rupture avec une tradition syndicale qui, en même temps, manifestait la solidarité des travailleurs entre toutes les entreprises nationales de même nature. Or, la FIOM s'est fortement opposée à ça, parce que maintenant, la Fiat fera ce qu'elle veut.
Puis c'est une façon de diviser, de toute façon.
Bien sûr, ça divise en même temps. Bien sûr. La CGIL ne sera plus représentée à la Fiat s'ils ne signent pas. Donc, ils sont très, très embarrassés actuellement. Il fallait qu'on en parle parce qu'on en a peu parlé dans la presse française. Et c'est une... C'est une évolution.
C'est une demande d'amis italiens, d'ailleurs. Disant, est-ce qu'on en parle en France ? Mais non, on en a très peu parlé. Enfin, on en a un peu, mais très peu parlé en France. Ouais.
Oui, symboliquement, c'est très, très important.
Oui. Mais bon, c'est vrai que chaque pays ayant des problèmes à débattre, souvent, ignore un peu ce qui se passe à côté. Quoi.
Oui, mais bon, la presse française en a signalé, mais enfin... je crois que c'est un phénomène.
Mentionné, on va dire.
Voilà, mais c'est un phénomène important dans l'évolution politique et syndicale de.
Au sein de l'Europe, c'est quelque chose d'important.
Absolument. Ouais. Et ben, sinon, il y avait encore. Le 25 janvier, il y avait un article du correspondant en Italie du Monde, Philippe Ridet, qui rappelle que la situation économique de l'Italie est catastrophique, quoi. Les statistiques sont,
les chiffres du chômage,
sont mauvaises. Ouais. Un jeune Italien sur 5, c'est-à-dire un peu plus de 2 millions de personnes, de jeunes des 19-24 ans, et appartient à la catégorie des NET, Not in Education, Employment or Training, c'est-à-dire qui n'a ni inscription scolaire, ni travail, qui n'est ni étudiant, ni employé, ni stagiaire.
Donc il est désœuvré.
Voilà. Et puis une proportion plus forte encore chez les femmes, 24,4%, que chez les hommes où il n'y a que 18%, qui met l'Italie en dernière position parmi les pays de l'Union européenne, où la moyenne est de 14,4%.
Sauf en Espagne, où c'est aussi catastrophique.
Non, mais le chômage en Italie n'est pas supérieur à la France.
Non, non.
Là, on parle de catégorie.
Oui, 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 la catégorie des jeunes. Oui.
Non, mais parce que l'Espagne, le chômage est important.
Oui, mais le chômage des jeunes aussi, je crois qu'il dépasse
20%. Ah oui, oui, mais largement. Ouais.
Et puis, plus on descend dans la botte, plus les chiffres sont hauts. Et bon, le taux de chômage moyen n'est que de 8,5%,
oui,
c'est-à-dire hors chômage technique, par
chômage
contre. Donc il y a aussi.
Puis après, les chiffres du chômage, en France, on dit qu'il y a 2,7 millions de chômeurs, alors que tout le monde sait qu'il y en a 4 ou 5, entre 4 et 5. Mais après, qu'est-ce qu'on prend? Quel chiffre est pris? Il y a le Bureau international du travail qui a ses propres chiffres. Chaque État ou chaque gouvernement a les siens. Après, on considère les gens qui n'ont pas du tout d'emploi, ceux qui ont un emploi de très courte durée. C'est-à-dire que les chiffres, on peut les habiller ou leur faire dire ce qu'on veut, mais la vraie réalité, c'est quand même qu'il y a un vrai problème. Quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Ah oui, parce que avec un tel pourcentage de chômage pour les jeunes, c'est sans espoir, quoi. C'est la désespérance.
Mais ici, donc il y a 25% de moins de 30 ans qui n'ont pas de travail. Hein. Dans des pays riches, parce qu'on est, contrairement à ce qu'on nous dit, on est dans des pays riches.
Donc, ce n'est pas porteur de
d'espoir.
Paix
Non, enfin, non, bon, c'est une situation qui est socialement destructrice.
Ah, complètement.
Oui.
Complètement.
Et alors, Philippe Ridet relie cette situation aux ennuis juridiques de M. Berlusconi, dont on parle beaucoup plus, et qui occupe le devant de la scène politique et des médias. Il dit, ah ben oui, mais il embauchait des jeunes filles pour les faire travailler,
salariés.
Pour les salariés. Et c'est ce que dit Berlusconi. Il dit, mais vous ne pouvez pas imaginer la quantité de jeunes que j'ai aidés. Et il cite les témoignages des parents des filles.
C'est incroyable.
Qui félicitent leurs filles de s'être bien placées auprès du président du conseil pour monter dans la hiérarchie sociale.
Moi, je ne crois pas que ce soit de l'aplomb. Je crois qu'il est complètement fou. Il est devenu complètement fou.
Oui.
Et un journaliste de La République disait récemment, contrairement à ce qu'on veut bien véhiculer, ce n'est pas un gars qui est complètement idiot, hein, loin de là, mais il avait sa ligne politique, plus que discutable, mais il avait une ligne, il avait ses affaires privées, et maintenant, il mélange complètement tout. Parce que c'est le propre du puissant quand il va jusqu'à l'extrême. Et il est devenu, il est malade, quoi. C'est devenu un malade. Moi, je pense que c'est un malade.
Oui, parce qu'on n'imagine pas quand même, nous, à quel point c'est arrivé et à quel point ça occupe l'activité du gouvernement.
Ouais.
Il a quand même 40 avocats, une quarantaine d'avocats, parmi lesquels des ministres et des parlementaires qui ne font que ça. Qu'essayer, maintenant qu'il a perdu son immunité judiciaire, son immunité parlementaire, puisque le Conseil constitutionnel a refusé la loi d'empêchement légitime, ils passent leur temps à chercher les moyens d'éviter à Berlusconi d'aller au tribunal, parce qu'il est quand même inculpé. Il est convoqué au tribunal pour incitation à la prostitution de mineurs. Et il y a un texte de plus de 200 pages qui a été envoyé aux inculpés, enfin, qui a été diffusé par les juges. C'est pas du bidon. Alors, il dit d'une part, bon, les juges sont des salauds qui font un complot communiste contre moi.
Oui, et puis il dit qu'il n'a jamais payé personne.
Et puis il dit, je n'ai jamais payé personne, mais le problème, c'est qu'on a les preuves qu'il versait de 5 à 7 000 euros par nuit passés avec chaque jeune fille, dont certaines étaient mineures. Mmh. On en a encore une.
Découverte ce matin. Découverte, elle s'est manifestée.
Elle s'est manifestée ce matin.
Nous, hein.
dans le Ruby Gate, puisqu'elle était surnommée Ruby. Et puis, il a compromis une conseillère régionale de Lombardie, une jeune femme de 25 ans qu'il avait fait élire conseillère régionale, qui était une de ses anciennes conquêtes, et qui l'a obligée, Formigoni, à inclure dans une liste, comme c'était une liste bloquée. Elle a été élue, mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir. Et alors, il faut voir, parce que ça dit le niveau de la discussion actuelle. Elle est absolument furieuse. On a un enregistrement téléphonique dans lequel elle dit « C'est un vieux, c'est un morceau de merde. Je ne me laisserai pas se moquer de moi. Il m'a entraîné dans ses festins, mais je suis une brave personne. Il veut seulement... sauver son cul flasque. Mais là, bon, donc c'est dire le niveau, oui, au niveau du langage mais auquel est descendu.
Le personnage entraîne ça, de toute façon. Oui. Ce qu'il y a de dommage là-dedans, enfin, là où il perd pied, mais vraiment pied. Déjà, bon, l'Église maintenant se manifeste complètement contre lui, alors que c'était quand même pas très clair.
Hein. Et une de ses alliées importantes en Italie.
Confindustria, dont tu parlais tout à l'heure, la présidente vient de se manifester aussi en disant maintenant ça suffit, on a besoin qu'il y ait des décisions, mais des vraies décisions qui se prennent. Après, les discussions, on peut les discuter, mais qu'elles se prennent. Mmh. Et lui, il vient d'intervenir récemment dans une émission télévisée où les téléspectateurs pouvaient appeler. Il n'était pas content du tout de la présentation de l'émission. Il a appelé en direct et le présentateur, animateur, l'a envoyé balader.
Oui.
En le renvoyant chez les juges, d'ailleurs. C'était les paroles de l'animateur.
Ce qui est une première.
Le problème, c'est que, d'ailleurs, nous, les premiers, on en parle sans arrêt. Et les autres pays, même les pays qui ont des grosses relations avec l'Italie, n'osent plus les afficher. Parce qu'ils les affichent au travers d'un personnage. Et on identifie le pays au personnage. C'est ce qui est quand même un petit peu... ce qui devient un peu pénible, quoi.
Il y a un certain nombre d'Italiens qui commencent à en avoir...
Il y en a même beaucoup.
Oui, mais le problème, c'est que la lutte se passe aussi sur le plan médiatique.
Bien sûr.
Que dans les médias qui sont à 80% contrôlés par Berlusconi, on ne parle pas de tout ça.
Oui, mais moi, j'y crois pas trop, ça. Franchement, j'y crois plus trop, disons.
Moi, je crois que c'est important.
J'y croyais beaucoup, mais c'est... on n'est plus quand même l'époque d'uniquement trois chaînes de télé. Et puis, c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai qu'il a 80% des médias. Non, mais ça, c'est entièrement vrai. Mais je veux dire, autant avant, mais il y a quand même, bon, même si tous les Italiens vont pas se balader sur Internet, acheter un journal ou quoi.
C'est vrai.
Il y a quand même moi, je voyais à Padoue, là, on en discutait avec plein de gens, dans les bars de partout, les gens discutent hein, sur Berlusconi, et ils disent ouvertement ce qu'ils pensent. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Alors on dit il a toujours une des opinions favorables dans les sondages. Enfin, il a 28%, hein, il n'a pas non plus... Mais c'est vrai que si on prend les sondages de tous les hommes politiques, ils n'ont pas plus. Hein, donc il n'est pas pire que les autres dans les sondages, ça c'est entièrement vrai. Et puis après se pose la question, effectivement, c'est qu'une fois que lui, parce qu'il y a un moment, il va bien de toute façon être descendu de son piédestal, le problème c'est qu'est-ce qui se passe derrière, quoi.
Oui, alors là, Il Fatto Quotidiano a fait un sondage auprès de ses lecteurs pour savoir qui il verrait démolir Berlusconi et le remplacer. Alors, il y avait plusieurs noms. Il y avait Bersani, qui est le leader du Parti démocrate. Il y avait Antonio Di Pietro, l'ancien juge de l'opération Main propre. Qui est le patron de
l'Italie des valeurs.
L'IDV, oui. Il y a Gianfranco Fini qui a rompu avec Berlusconi et qui ne lui laisse maintenant qu'une... Il a eu une majorité de 3 voix au dernier vote de confiance. Et sur les 3 voix, parce qu'il les a achetées.
Monnayées,
disons.
Oui,
voilà. Alors, on dit, bon, Fini, c'est quand même un ancien fasciste. Il vise à une droite, faire une droite moderne. Et
est-ce qu'on change vraiment à ce point-là?
Et honnête.
C'est pas du tout la même envergure.
Alors, on a essayé de lancer des calomnies contre lui, sur un appartement, sur sa fiancée. C'est incroyable, le niveau, là aussi. Et puis, on cite Beppe Grillo, mais Beppe Grillo ne veut pas être candidat.
Non, pas du tout.
On cite Marco Pannella, le leader du Parti radical, mais
Pannella est
exclu de la grande vie politique. Et puis, il a quand même 81 ans. Donc, ce n'est pas un homme d'avenir. Et puis, on cite Nicky Vaendola. Vaendola,
c'est celui.
Nicky Vaendola, qui est peut-être le plus...
C'est celui dont on entend le plus parler. On en a parlé la dernière fois.
C'est le problème, c'est que... à l'intérieur du Parti démocrate, on se déchire. Il y a des problèmes actuellement en compagnie, dans les Pouilles. À l'intérieur de IDV, on se déchire aussi. Et donc, on voit mal comment peut surgir...
C'est-à-dire que l'opposition est unie, entre guillemets, sur l'anti-berlusconisme. Mais après, derrière, c'est là le problème, quoi.
Eh oui.
C'est là le problème. Oui. Ça rappelle certains pays.
Oui.
Je sais pas de quel
c'est
pays.
C'est peut-être contagieux.
Je sais pas quel pays tu penses.
Dit, dans les lignes politiques, hormis le personnage qui est détestable, la ligne politique, elle est pas très différente quand même de ce qu'on a en France. Il faut quand même être clair.
C'est un hyper-libéralisme.
Il faut qu'on soit aussi lucide. Je crois que...
Sauf que formellement, on a en France un président de la République qui joue formellement. Sans l'appliquer, mais qui joue dans le discours la carte de l'État, alors que Berlusconi n'est pas du tout un homme d'État et qui n'arrête pas de dire du mal des policiers qui ont manifesté l'autre jour.
Des juges et machin.
Des juges, des avocats, de tout le personnel judiciaire.
Les juges, en France, c'est un peu vrai aussi.
moins quand même. Un peu.
Mais bon, peu importe. Non, de toute façon, Berlusconi est franchement détestable. Et
il fait du mal à l'Italie.
Il fait du mal à l'Italie, voilà. Parce que c'est quand même un pays qui est bourré de talents, bourré de richesses, où il y a des tas de choses...
Et heureusement...
Dont on ne parle jamais.
Il y a entre l'État et les régions...
Et il y en a marre.
Une indépendance...
En fait, il monopolise les discussions, les réflexions sur l'Italie. C'est dommage.
Il entretient un système qui est quand même un système de corruption et qui va dans toutes les directions. Dans les appartements, il avait donné tout un immeuble à ces jeunes filles qui venaient chercher du travail chez lui... Tout un immeuble à Rome, dans un quartier central de Rome. Le problème, c'est qu'on y a trouvé 3 kilos de cocaïne, par exemple. Donc, ça entre dans des réseaux mafieux et clandestins qui sont redoutables. Alors, on va écouter une chanson. Il y en a une qui m'a paru, elle est de 93, mais elle m'a paru tout à fait actuelle. C'est de Andrea Plebani, qui est un grand musicien actuel. Ça s'appelle « È tutto da rifare »,« Tout est à refaire ». Fermé dans ce monde qui ne veut plus de nous, car il est guidé non pas par nous, mais par des mafias et de faux héros. Et puis, il faut qu'on court et qu'on s'enfuit en laissant derrière nous des prétentions et des hypocrisies. Et le refrain, c'est « Tout est à refaire dans notre monde, tout est à changer, nous avons touché le fond. D'un coup, nous sommes ici en montrant entre nous des blessures, en nous montrant entre nous des blessures qui ne se refermeront jamais, mais le monde, c'est nous. »
Siamo noi. si può scappare via, lasciando che altre anime ti cambino la via. E tornerà la notte, poi tu cercherai la luce e il sole, ma guarda il mare, lui ti darà la forza per ricominciare. Lasciando spazio al sole, se scegli la tua strada, sai, sognare ancora tu potrai. Se scegli di restare qui, la luce può tornare. È tutto da rifare in questo nostro mondo, è tutto da cambiare. Abbiamo toccato il fondo, di colpo siamo.
Voilà, c'était Le Monde et tout, tout est à refaire de Andrea Plebani.
Bien, alors...
Alors, puisque tout est à refaire...
oui, ben pourquoi pas, on va essayer.
Le mois de janvier est un centenaire, c'est peut-être que tu vas nous dire, non ?
Moi, je vais vous parler, enfin, j'ai fait la connaissance d'un personnage à travers une chanson que j'ai découverte cette semaine. Un chant que j'ai découvert sur un disque, sur un CD qui, dont le titre est « Chanson du peuple en Italie ».
Bella Ciao.
Bella Ciao. Oui, oui.
Le recueil,
oui.
Le nom de...
C'est
oui,
la reprise
c'est
d'un vieux spectacle
et donc,
des années 60.
Sur ce CD, j'ai découvert un chant qui a été écrit par Pietro Gori.
Qui est mort il y a 100 ans exactement.
Voilà, qui est mort en 1911.
Le 8 janvier 1911.
Oui,
on fête le centenaire de sa mort.
Voilà. Et donc, je vous parlerai de la chanson après, mais je veux d'abord parler du personnage, parce qu'apparemment, je l'ai découvert, hein, parce que moi, je ne connaissais pas son existence. C'est une grande figure historique du mouvement anarchiste italien, on peut dire ça, genre.
Absolument. Ah oui, absolument.
Hein, voilà. Mais c'est un anarchiste pacifique, hein. C'est un...
Comme la majorité des anarchistes
oui,
italiens.
Oui, tout à fait, parce que l'anarchisme, c'est un peu utopique. C'est l'esprit libertaire qui se manifeste. Voilà. Et alors, je commencerai par dire que le jour il a été justement, le jour de ses funérailles, qui a duré 3 jours durant, des milliers d'ouvriers de toute la Toscane sont venus honorer le défunt. Voilà, donc c'est quand même... Un témoignage populaire superbe. Voilà. Alors, donc, j'en reviens à lui. Donc, il est l'auteur. En plus, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un avocat. Il a écrit quelques-unes donc, des plus célèbres chansons anarchistes de la fin du 19e, dont on vous parlera tout à l'heure. Et notamment, justement, celle que j'ai tant aimée, dont le titre est « Addio ». À Lugano, où on peut aussi dire addio à Lugano Bella, non ?
Oui, Lugano Bella.
Lugano Bella.
C'est
oui,
souvent
hein.
Le titre qui
oui,
est,
voilà,
qui
c'est
est
ça.
Le titre précédent, c'était Il canto degli anarchici, chant des anarchistes. Mais après, c'est addio à Lugano qui a été choisi.
C'est la même chose. Ah, oui, d'accord. Donc ce chant est devenu un chant aussi populaire en Italie que Bella Ciao.
Absolument.
Oui, oui.
Donc il est né à Messine en 1865. Son père, il a grandi dans cette atmosphère patriotique et républicaine, puisque son père était officier et a participé dans l'armée royaliste, je crois, et a participé au Risorgimento. Et son père était aussi un grand admirateur de Manzini.
De Mazzini, le leader.
Mazzini, c'est ça. Oui. Mazzini,
le leader
patriote,
des Républicains italiens.
C'est ça. C'est ça. Oui.
Et de Garibaldi.
Oui, 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 c'est ça. Voilà, on rejoint toute cette époque héroïque. Donc, il a fait son droit à l'université de Pise. Il s'est passionné ensuite pour l'Association internationale des travailleurs. Donc, il a adhéré au mouvement anarchiste de la ville. Il est devenu une figure importante. Il anime, il organise, il coordonne, il prend la parole, il polémique avec brio. Voilà. En plus, il était spécialiste de la criminologie, je crois.
Oui.
Oui. Il a écrit une thèse sur la misère et le délit. Et il obtient donc sa licence d'avocat en 1889.
Voilà.
Son ouvrage « Pensée rebelle » lui vaut d'être arrêté pour instigation à la haine des classes parce que dans cet ouvrage, il attaque le droit inviolable à la propriété. Gori obtiendra d'ailleurs un non-lieu grâce au témoignage de ses professeurs, de ses camarades étudiants et même d'un député radical de renom, Enrico Ferri. Qui est Enrico Ferri?
Enrico Ferri était aussi un des leaders de la gauche italienne. Et c'est un de ceux qui l'a défendu.
D'accord.
Il a été son avocat quand il a
eu... Oui, il défendait tous ses camarades, toutes les causes un petit peu, justement, rejoignant la cause anarchiste et l'Association internationale des travailleurs. Bon, alors il s'est installé à Milan ensuite, où il exerce sa profession d'avocat. En 1891, il participe au congrès du Parti ouvrier italien. Je ne dis pas tout ce qu'il a fait, parce que sinon il y en aurait pour des heures. Il est toujours étroitement surveillé par la police, même par le ministère de l'Intérieur. Il est systématiquement arrêté par mesure de précaution à l'approche du 1er mai de chaque année. Et c'est ainsi qu'en prison, en 1892, il écrira l'hymne du 1er mai.
On l'écoutera tout à l'heure.
Oui, voilà. Donc, il participe à des conférences. Il assure toujours la défense de camarades aux prises avec la justice. Et c'est ainsi qu'il est amené à assurer la défense de Caserio, le meurtrier du président Sadi Carnot. Et à ce moment-là, il est accusé par la presse d'être l'inspirateur de l'attentat.
Voilà, déjà le cerveau.
Déjà les méfaits des médias. Pour éviter l'emprisonnement, il s'enfuit à Lugano,
oui,
en Suisse.
Il est obligé de s'exiler.
Voilà, il est obligé de s'exiler. Mais il est arrêté en 1895, là, à Lugano, avec 15 autres exilés politiques italiens. Et expulsé du pays 2 semaines plus tard. Et c'est à cette occasion qu'il compose les vers de cette chanson
« Addio
a Lugano ». Voilà.
Tout à fait.
Alors ensuite, il quitte l'Italie, il va en Allemagne, en Belgique, Londres, il
Amérique
part
du Sud
ça.
Aussi.
Oui.
Amérique du Sud.
À Buenos Aires, oui.
Oui, il va aussi en Amérique du Nord. Il fait plus de 400 conférences par an. Il est très doué, c'est un poète. Il y a un témoin américain qui le décrit comme un des hommes les plus doués qu'il ait rencontré. Une belle voix de ténor, un poète de mérite, un joueur de guitare, un écrivain et un conférencier très compétent. Il écrit une pièce de théâtre, Senza Patria.
Sans patrie.
Voilà, qui met en scène un paysan, ancien combattant de l'unification italienne. Et Gori a ainsi inspiré le thème du sans-patrie et lancé ce cri émancipateur « Le monde est ma patrie ». Ce slogan va jouer un rôle très important dans la communauté italo-américaine qui se sentira solidaire du monde entier. Voilà. Donc, ensuite, les événements de janvier 1898 à Milan c'est-à-dire la répression par, par l'armée qui tue sur la foule d'un mouvement de protestation ouvrière, le contraigne à s'exiler de nouveau.
Oui, parce qu'il avait été avocat de plusieurs travailleurs qui avaient été arrêtés.
Voilà, c'est ça, oui.
En 98. Mmh. 1898, ça a été une grande année pour le mouvement ouvrier milanais.
Ouais. Et il s'embarque à Marseille pour l'Amérique du Sud. Donc, il se fait connaître en Argentine. Il fonde une revue sur la criminologie moderne. Mmh. Il donne des cours à l'Université de Buenos Aires. Ensuite, il part au Chili. Il contribue toujours au mouvement d'expression internationale. Et voilà, donc on le décrit comme le poète de l'amour, des fleurs et de la fraternité. Et il meurt à 45 ans.
À 45 ans.
Le 8 janvier 1911.
Voilà. 1911. En Toscane. Il était rentré en Italie.
Oui, il avait pu revenir en Italie. Oui,
oui. Oui. Et il avait fondé, avec Luigi Fabbri, un autre grand personnage du mouvement anarchiste communiste italien, il avait fondé une revue qui s'appelait La Pensée, et qui a dû arrêter très vite parce qu'elle a été censurée. Alors, on va écouter cette chanson, donc « Adieu à Lugano ».
Alors, peut-être que tu pourrais nous la traduire.
Alors, il dit « Adieu, belle Lugano, ô douce et sainte terre, chassée sans faute, les anarchistes s'en vont et ils partent en chantant l'espérance au cœur. Et c'est pour vous, travailleurs exploités, c'est pour vous, travailleurs, que nous sommes enchaînés, menottés à l'égal des malfaiteurs. Et pourtant, notre idée n'est que l'idée d'amour. Compagnons anonymes, amis qui restaient les vérités sociales qui sont répandues par les hommes forts, c'est la vengeance que nous vous demandons, mais toi qui nous chasses par un vil mensonge, république bourgeoise, un jour tu en auras honte. Là, il s'adresse à la Suisse. Et aujourd'hui, nous t'accusons face à l'avenir. Bannis sans trêve, nous irons de terre en terre prêcher la paix et bannir la guerre. La paix entre les opprimés, la guerre aux oppresseurs. La Suisse, Suisse, ton gouvernement, esclave d'autres gens, se rend galliardo di un popolo, rend un peuple gaillard, offense les traditions d'un peuple gaillard et insulte la légende de ton Guillaume Tell. Adieu, chers compagnons, amis de Lugano, adieu, blanche montagne de neige du Ticino, du Tessin, les chevaliers errants sont traînés vers le nord.
Monotés parce qu'ils ont été raccompagnés à la frontière.
Et oui.
Monotés. Quand ils ont été expulsés.
Ah oui.
Voilà. Ils sont expulsés, les Suisses n'en veulent pas. Ils sont dangereux.
Addio Lugano.
Addio Lugano bella, o dolce terra pia, cacciati senza colpa, gli anarchici van via. E partono cantando con la speranza in cuor. E partono cantando con la speranza in cuor. Ed è per voi sfruttati, per noi lavoratori, che siamo incatenati al par dei malfattori. La nostra idea è solo idea d'amor, eppure la nostra idea è solo idea d'amor. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate. E questa la vendetta che noi vi domandiamo.
Spagna, Repubblica Borghese, onde ne avrai vergogna, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir.
Cacciati senza tregua, andrem di terra in terra a predicare la pace e a bandir la guerra, la pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressor, la pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressor.
Elvezia al tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende, esulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, esulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell.
Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalli erranti son trascinati al nord, i cavalli erranti son trascinati al nord, i cavalli erranti son trascinati al nord.
Voilà, Chantal.
Oui, alors je voulais juste dire un petit mot. Alors, vous ferez des commentaires après si c'est...
Allez.
Tu as la liberté de t'exprimer.
Voilà, alors je voulais simplement donner une petite définition sur l'anarchisme, parce que c'est tellement un terme qui a collé à toutes sortes de choses.
Ta définition ?
C'est pas ma définition, non. Je l'ai simplement pompé dans l'Encyclopédia Universalis. Ben
non, hein.
Enfin, j'ai condensé, je fais une synthèse. Oui, alors l'anarchisme est avant tout un esprit de révolte contre l'autorité. Ça, vous êtes d'accord, hein. Selon les philosophes, l'esprit libertaire est inhérent à l'homme. Hein. L'esprit libertaire a toujours été combattu, mais il demeure et il perdure. Essentiellement défini comme un esprit de résistance à l'oppression sous toutes ses formes.
Ni Dieu ni maître.
Hein.
Voilà.
Belle chanson.
Il restera probablement une réaction permanente dans un monde où des formes de contraintes renaissent à mesure que d'autres disparaissent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Mmh.
Oui, il y a de ça quand même.
Alors, il y a un autre... on écoutera tout à l'heure l'hymne du 1er mai de Pietro Gori, qui est un classique aussi chanté constamment. Il y a un autre problème d'actualité qui touche un petit peu l'Italie, c'est la Tunisie.
Oui,
parce que...
Oui.
Très lié. Hein.
La Tunisie a été un protectorat français, mais était très liée à l'Italie. Alors, depuis très longtemps, c'est les Génois qui ont commencé à arriver... À s'installer en Tunisie. Ils s'étaient installés dans l'île de Tabarka, au nord de la Tunisie, sur la côte septentrionale, pour cultiver le corail local. Et puis, c'était une base commerciale importante vers l'Orient en particulier. Et l'île a appartenu jusqu'en 1742, pendant deux siècles, à une famille génoise, les Lomellini. Et puis, au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, à Tunis, arrivent de nombreux juifs italiens. Ils sont à ce moment-là, c'est le moment du... Après le Concile de Trente, les juifs sont reclus dans les ghettos et beaucoup vont émigrer en Tunisie. De même qu'au XIXe, les exilés, enfin beaucoup de politiques vont s'exiler, les républicains, dont notre Giuseppe Garibaldi, qui s'est exilé en Tunisie, et beaucoup de Siciliens qui émigrent aussi, parce que c'est très proche. On a environ dans l'émigration italienne, environ 70% de Siciliens et de Maltais. Il y a les Maltais aussi qui émigrent beaucoup. Et donc, on arrive à une présence très très forte en Tunisie d'Italo-Tunisiens, de plus de 100 000 personnes. C'est considérable. Et jusqu'à ce que les Français, donc il y avait des accords internationaux entre le Bête Tunis et puis chacune des régions, même avant l'unité italienne, ils avaient signé des accords avec chaque région italienne, des accords commerciaux, des accords sur le statut des Italiens en Tunisie, qui étaient très, très, très favorables, jusqu'à ce que... les Tunisiens infligent aux Italiens ce qu'on a appelé la gifle de Tunis sous pression de la France. Parce que la France développait son colonialisme et elle regardait de très près vers la Tunisie. Elle avait envie d'avoir une domination sur la Tunisie. Et donc, en 1881, les Français envahissent la Tunisie. Ils occupent militairement la Tunisie et, évidemment, annulent tous les accords avec l'Italie.
Ils dénoncent ce qu'ils appellent le péril italien.
Le péril italien, oui, c'est l'expression qui était employée. C'était le péril italien. Et donc, les Italiens vont, à partir de ce moment-là, vont être obligés de se retirer de Tunisie. Leur nombre diminue jusqu'à ce qu'aujourd'hui, après de nombreuses vicissitudes, il y a eu la guerre aussi et le fait que beaucoup de Tunisiens, d'Italiens en Tunisie, se soient ralliés aux forces fascistes et à l'armée allemande d'Afrique. Aujourd'hui, il reste dans les 3000 Italiens en Tunisie. Mais l'italien y est très présent. Et par exemple, on organise en Tunisie actuellement des cours d'italien. Il y a beaucoup d'Italiens qui parlent, des Tunisiens qui parlent italien, parce que l'Italie leur fait donner des cours de langue pour pouvoir ensuite faire venir, quand ils en ont besoin, dans tel ou tel secteur, des Tunisiens qui connaissent la langue.
Avant qu'il y ait le satellite, et où on... Bon, maintenant on a la possibilité de prendre des télévisions dans toutes les langues, mais avant qu'il y ait le satellite, la télé italienne était diffusée en Tunisie. Ouais. Et on dit qu'il y a beaucoup de Tunisiens, alors d'Italiens proprement dit, il y en a moins qu'avant, mais il y a beaucoup de Tunisiens qui ont une origine italienne.
On dit qu'il y a 10% des Tunisiens qui ont une origine italienne.
Ou apparentée, en tout cas.
Claudia Cardinal.
Il y a de grands personnages qui sont... Oui, il y a Claudia Cardinal, il y a Sandra Milo, une autre grande actrice. Il y a un joueur de tennis comme Nicola Pietrangeli, par exemple. Qui était un Italo-Tunisien. Et puis, il y a Maurizio Valenzi, qui a été un personnage important. Il a été maire de Naples. Il était aussi d'origine tunisienne. Et puis, il y a des gens, beaucoup de gens moins connus, comme Mario Scalesi, qui est un poète, Antonio Corpora, qui est un peintre, Niccolò Converti, qui est un éditeur, Attilio Molco, qui est le fondateur de la Dante Alighieri tunisienne, etc.
Et puis, dans les gens qui sont repartis, on disait qu'il y avait beaucoup de Siciliens qui étaient repartis de Tunisie, mais quand Bourguiba est arrivé, il avait saisi les domaines agricoles qui étaient détenus par les étrangers. Et là, il y avait beaucoup de Siciliens, en fait. Mais comme ils avaient des documents, des papiers français, à l'époque, ils ont beaucoup émigré en France, en fait. Ces Siciliens de Tunisie sont venus en France.
Et ils ont rejoint les Pieds Noirs d'Algérie.
Voilà, tout à fait. Okay.
Et on a à Lyon un spécialiste, c'est Michele Bronzino, qui a écrit un très beau livre sur la presse italienne en Tunisie jusqu'en 1956, et qu'on peut trouver facilement. Michele Bronzino, qui est traduit par Madame Fracassetti, traduit en français. Voilà, on écoute donc l'hymne du 1er mai de Pietro Gori. Il en a écrit les paroles, et sur l'air du Chœur des esclaves de Nabucco. Alors, c'est une musique, c'est pas la musique de Verdi, il l'a un peu transformée en un rythme à trois temps qui est plus.
De Va Pensiero ? Sur l'air de Va Pensiero.
Voilà, voilà. Et c'est l'appel au mois de mai, viens au mois de mai, les peuples t'attendent et les cœurs libres te saluent, douce Pâque des travailleurs, viens et resplendis à la gloire du soleil, etc. etc. C'est un hymne au travail contre le pouvoir de l'argent.
Vieni au maggio, t'aspettano le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavoratori, vieni e splendi alla gloria del squilli un inno di alate speranze al gran verde che il frutto matura, alla vasta ideal fioritura in cui freme il lucente avvenire. Disertate falangi di schiavi, dai cantieri, dall'arse officine, via dai campi, su dalle marine, tregua, tregua all'eterno sudor. Innalziamo le mani incallite e siamo fascio di forze fecondo. Noi vogliamo redimere il mondo dai tiranni dell'ozio e dell'oro. Giovinezze, dolori ideali, primavere dal fascino arcano, verde maggio del genere umano, date ai petti il coraggio e la fede. Date fiori ai ribelli caduti, con lo sguardo rivolto all'aurora, al gagliardo che lotta e lavora, al veggente e poeta che muore. Date fiori ai ribelli caduti, con lo sguardo rivolto all'aurora,
Voilà, c'est l'hymne du 1er mai de Pietro Gori, donc sur une musique copiée de Verdi. Et le jour de ses funérailles, donc 8 janvier 1911, on a chanté l'hymne du 1er mai et on a ajouté cette strophe donc, qui rend hommage, donner des fleurs aux rebelles tombés et aux poètes voyants qui meurent.
Alors la transition va pas être facile, hein, passer de Gori au Gnocchi. Bien, ben on l'a fait quand même.
Hein. Oui, parce qu'il nous reste peu de temps.
Alors, de Gori au Gnocchi.
Gnocchi di zucca, donc les gnocchi de courge, potiron. Alors vous préparez pour, je vais vous donner une recette pour 8 personnes.
Et on va quand même écouter, alors pour faire la transition, une chanson de Gori pendant que tu lis la recette.
Oui, et puis il devait bien aussi aimer manger, je suppose. Alors pour 8 personnes, comme ça vous inviterez des amis. Et vous préparez donc 2 kg de potiron, de courge, 160 à 190 g de farine, 2 œufs, 250 g de ricotta, 50 g de parmesan, de la noix de muscade, du sel, du poivre, et puis pour l'assaisonnement, 80 g de beurre, 20 feuilles de sauge, 20, hein, n'oubliez pas, 80 g de parmesan, ou alors vous prenez 200 g de ricotta fumée, l'un ou l'autre. Vous coupez donc le potiron en morceaux, vous enlevez les pépins, vous faites cuire une heure au four à 160 degrés sous une feuille d'aluminium. Vous piquez le morceau à la fourchette pour vérifier la cuisson, je suppose que vous le faites toujours quand vous mettez quelque chose au four, et il faut que ces tranches soient tendres. Vous faites une purée au moulin à légumes, vous incorporez la ricotta, le parmesan, la farine tamisée, pas en une seule fois, en plusieurs fois, les jaunes d'œufs, le sel et le poivre. Après, vous ajoutez les blancs d'œufs montés en neige et un peu de parmesan si vous jugez que le mélange est trop mou. Ensuite, vous faites des gnocchi, c'est-à-dire des sortes de petites quenelles que vous mettez entre deux cuillères. C'est une technique pour faire des petites quenelles qui ressembleront aux gnocchi, on va dire. Vous plongez dans un grand faitout d'eau bouillante, pas trop salée. Vous comptez environ 3 minutes et vous sortez les gnocchi avec l'écumoire. En fait, il faut qu'ils soient remontés, tout simplement. Ensuite, vous les mettez dans un plat. Vous versez le beurre fondu parfumé à la sauce, vous saupoudrez de parmesan ou de ricotta fumée. Alors, il y a quelques petites techniques. Vous pouvez préparer les gnocchi à l'avance et les réchauffer après dans l'eau bouillante ou en les passant au four pour les faire gratiner. Ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'elle est quand même assez difficile à réaliser uniquement avec les courges qui rendent beaucoup d'eau,
oui.
C'est de faire un mélange avec de la pomme de terre. Puisqu'il existe des gnocchi de pommes
oui,
de terre.
Oui, mais alors les pommes de terre, on ne les fait pas sécher au four.
Non, non, vous les intégrez après une purée de pommes de terre.
Mais il faut les faire cuire.
Courge, voilà.
Ah, voilà.
Alors, évidemment, la recette est un petit peu rapide pour l'avoir prise, mais vous pouvez toujours... Soit vous adressez à Couleur IFM, soit vous la trouverez sur le site d'Inis, italienorisère.com, www avant, soit nous téléphoner au 04 74 93 41 28.
Et nous écoutions sous cette recette de gnocchi les refrains d'exil qui ont été écrits par Pietro Gori. Et qui ont été aussi une des grandes chansons dans le même esprit que Addio
à Lugano.
À Lugano Bella. Mm. Et ils étaient suivis d'un autre texte, d'une autre chanson anarchiste, l'hymne de la paix. Et c'est l'occasion d'insister sur le fait que les anarchistes italiens ont été pacifiques. Ils ont été rarement violent. Oui, Orsini avait mis une bombe, mais c'était pour tuer Napoléon III. Mmh. Donc, mais il était. Caserio avait tué notre président de la République. Mais enfin, voilà.
Voilà, au revoir à tous.
Alors,
oui,
au revoir à tous.
Oui, oui.
Et puis au mois prochain.
Oui,
à notre autre
fois.
Émission, Sono Solo Canzonette, qui reprendra donc bientôt. À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le 4e jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualités et traditions,
chansons,
gastronomie.